Certains contes s'échangent à maintes reprises.
Marche encore.
Oui, grand-père.
Certains contes sont dits aux enfants, des histoires qui leur apprennent l'histoire de leur tribu, ce qu'il faut manger ou éviter, des avertissements.
Garde le soleil dans le dos.
Certains contes se racontent entre femmes, dans cette langue qu'on n'enseigne jamais aux jeunes garçons, et que les hommes plus âgés sont trop sages pour apprendre. Des contes qu'on doit taire aux hommes.
Comme ça ?
Oui, parfait.
Il y a les contes que les hommes se racontent entre eux, dans leur hutte, le soir venu. Des contes crus, salaces, du lézard ayant perdu son membre viril, ou du malabayo, le farceur, qui vendit des crottes de singe au roi lion, prétendant qu'il s'agissait de l'âme de la lune. Il y a les contes que la tribu tout entière se raconte, aux fêtes, aux repas. L'histoire du rocher sauteur, de la création du feu, et un millier d'autres. De petits contes, de grands contes, des contes qu'on dit et qu'on entend à maintes et maintes reprises. Un seul de ces contes n'est jamais dit qu'une seule fois.
The Sandman. Conte des sables.
On approche ?
On approche.
Le vieil homme est ratatiné par l'âge. Son visage est ridé, ses joues scarifiées. Il ne sent pas le sable qui vient lui piquer les jambes, poussé par le vent. Le plus jeune souffre encore de sa circoncision, mais il prend sur lui avec la fierté de sa masculinité nouvelle. Tous deux ne sont vêtus que d'un simple pagne. Tous deux n'emportent qu'une simple lance. Le plus jeune porte aussi un fagot de bois. Voilà déjà 2 jours qu'il marche dans le désert du Kalahari.
Assez.
À son retour dans sa tribu, le garçon sera vraiment un homme. Il aura écouté le conte. La nuit, il dormira dans la hutte des jeunes hommes.
C'est cet endroit.
On s'arrête ?
Mais on ne se repose pas. Donne-moi le petit bois. Maintenant, tu dois aller trouver quelque chose et me le rapporter. Et quand tu l'auras rapporté, je te dirai le compte. Pendant que tu cherches, je vais allumer le feu.
Mais grand-père, qu'est-ce que je dois trouver ?
Tu comprendras quand tu trouveras. Va, fais vite. La nuit approche, et je dois commencer le conte avant le coucher du soleil.
Je ne vois que du sable, et un petit rocher. Il n'y a rien d'autre. Je devrais peut-être regarder sous le rocher.
Le jeune homme brandit un éclat de verre. Au travers, il voit son grand-père assis près du feu. Il est aussi grand que le cœur d'une vache. On y discerne des motifs.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Donne-le-moi.
Le vieil homme touche le verre. Il se souvient, vaguement, du moment où le frère de sa mère l'a conduit jusqu'ici, l'envoyant chercher un même éclat de verre. Et il peut enfin commencer son histoire.
Ce verre était autrefois dans une cité. Si tu fouilles tout autour de toi, tu en trouveras d'autres du même genre. Il est interdit de les emporter de cet endroit. Je vais te parler de cette cité, des causes qui nous l'ont fait perdre. Et un jour, si tu vis assez vieux, tu conduiras un jeune garçon ici, et tu lui diras ce conte. Car c'est ainsi que nous avons toujours fait, Chacun de nous entend ce conte une fois à cet endroit. Et chacun de nous le transmet une fois à cet endroit. Si grand-mère la mort nous ignore assez longtemps pour qu'on puisse le dire.
Tandis qu'au loin le soleil touche l'horizon, le vieil homme s'interrompt et regroupe ses forces. Ils ont fait bien du chemin et le conte requiert beaucoup d'énergie. Il doit être dit dans les règles pour ne jamais être oublié. Il tient le verre dans une main, le soupèse, tout en parlant au garçon.
Écoute, c'était dans l'ancien temps, bien avant l'arrivée de l'homme blanc, avant même les autres tribus, à l'époque où toutes les choses savaient parler, à l'aube de l'histoire. Cet endroit n'était pas encore un désert. Il était fertile, avec des arbres aux fruits juteux, des animaux placides et sans méfiance, rendant la chasse facile. Il te suffisait de fermer les yeux et de projeter ta lance, et immanquablement, tu trouvais ta nourriture plantée sur sa pointe. Et ici même, où nous sommes assis, se trouvait une cité. C'était une cité faite de verre. Une cité s'étendant aussi loin qu'un homme pouvait marcher en une journée. Car c'est ici que le premier peuple a vu le jour. Et ce premier peuple était notre tribu.
Notre tribu?
C'est notre secret. Et nous le taisons aux étrangers. Ils nous tueraient s'ils l'apprenaient. Mais c'est bien la vérité. Ainsi, ce morceau de verre faisait partie d'une cité. Et sur cette cité, régnait une reine. Elle s'appelait Nada. Et à son 16e anniversaire, elle était la plus belle femme que le soleil ait jamais vue au cours de ses allers-retours dans le ciel.
Madame, avez-vous décidé?
En effet.
Et ses choix était sage, toujours équitable. Et quand elle disait
« Faites-le !»
on obéissait.
Madame, votre bain vous attend.
Merci. Laissez-moi maintenant.
Mais elle n'avait pas d'époux.
Madame, vous n'êtes pas trop seule dans votre chambre, sans personne?
Vous n'aimeriez pas de la compagnie, la nôtre ou celle d'un homme?
Car quand les femmes de la tribu lui suggéraient de prendre un homme pour époux, elle se tournait vers elle et répondait
« Mais où est l'homme qui me conviendra ?»
Et les femmes se taisaient toutes.
Elle ne trouvait pas d'homme ?
Tais-toi et écoute. Un jour, un étranger arriva en ville. Il était grand et sa peau plus sombre que la tienne ou la mienne. Des flammes dansaient sur le noir de sa tenue et ses yeux étaient des étoiles dans des eaux profondes et ténébreuses.
Stop! Que venez-vous faire ici? Oh, oui, passez.
Et il ne s'adressa à aucun homme. Mais ce soir-là, il vint au pied de la tour de la reine. Car les maisons de la cité s'élevaient dans le ciel. Et il leva les yeux. Et Nada regarda par sa fenêtre. Elle vit l'homme en contrebas. Et son cœur lui fut dérobé. Cette nuit-là, la reine ne dormit pas.
Qui était-ce?
Chut. Au matin venu, elle ordonna qu'on vienne lui présenter l'étranger.
Madame.
Où est-il?
Pardonnez-moi.
Mais l'étranger resta introuvable dans toute la cité. La reine ordonna à ses hommes de le retrouver.
Cherchez mieux. Allez plus loin. Vous tous, allez.
Et ils arpentèrent les forêts mais aussi les montagnes et les déserts, sans jamais trouver trace de cet homme.
Oh.
Et Nada était inconsolable, car elle savait qu'elle avait trouvé l'amour et l'avait perdu. Elle s'enfonça dans la forêt jusqu'à trouver le roi des oiseaux. Elle lui raconta alors son histoire.
Au roi des oiseaux ? Ils ont un roi ?
Son espèce ne foule plus la terre.
Mais ils savaient aussi voler ?
On trouve encore de grands spécimens qui ne prennent pas la peine de voler. Et il était le plus âgé et le plus grand de tous leurs ancêtres.
Qu'est-ce qu'il a dit ? Je l'ai perdu et je ne le trouve nulle part.
Qu'il soit un homme ou un dieu.
Car à cette époque, les dieux arpentaient encore la terre, vêtus de chair. Et ils vivaient dans les régions chaudes, au nord.
Je le trouverai pour toi, Nada, car les rois et les reines se doivent de s'épauler.
Et le grand roi appela tous les oiseaux du ciel à son trône. Et à tous, il leur demanda.
Avez-vous vu cet homme ?
Et chacun des oiseaux dit « Non », jusqu'à ce que toute l'assemblée sembla avoir parlé. Mais il restait un oiseau, un tisserin blanc, si petit qu'on l'avait négligé.
« Petit tisserin !»
dit le roi des oiseaux.
« Et toi, as-tu vu cet homme ?»
L'oiseau acquiesça. Il avait vu l'homme, tard dans la nuit, sous la lune. L'homme lui avait souri et donné du grain à manger. Puis il était parti. Le roi des oiseaux remercia le tisserin.
Ainsi, il n'est ni homme, ni dieu, mais autre chose. Oublie-le, Nada. Trouve un homme humain, fait de sang et d'os, de chair et de peau. Celui-là ne sera jamais tien.
Et Nada baissa la tête et quitta cet endroit. Elle marcha jusqu'à la rivière, mais le tisserin l'avait suivie. Et le tisserin lui dit
« J'ai entendu parler d'un arbre capable de pousser sur les montagnes du soleil. Et sur cet arbre pousseraient des baies de flamme. On dit que si un humain avale l'une des baies de cet arbre, il sera immédiatement transporté aux côtés de son véritable amour. »
Comment faire pour cueillir une baie de cet arbre ?
Demanda Nada au tisserin. Et le petit oiseau de répondre, je m'en chargerai pour toi. Le petit oiseau s'éleva dans le ciel.
Pour aller où ?
Il s'envola si haut qu'il disparut, tandis que la reine patientait sur la terre ferme. Elle attendit une journée. Et à la fin de cette journée, elle aperçut un petit point dans le ciel au-dessus d'elle. Mais elle ne le reconnut pas.
Il était où, le tisserin ?
Mais c'était le tisserin. Seulement, la chaleur du soleil lui avait cruellement bruni les ailes, et il tenait dans son bec une baie cueillie sur les arbres des montagnes de l'astre du jour.
Tu as trouvé ? Mais tu t'es brûlé les ailes.
C'est pourquoi, encore aujourd'hui, le tisserin est brun. Le petit oiseau laissa tomber au sol la baie de flamme de l'arbre du soleil au pied de Nada. Alors la reine prit le tisserin dans sa main et lui dit
« Pour ce que tu as fait, personne sur cette terre ne te blessera jamais, ni toi, ni ton espèce. »
Ainsi, il reste interdit de manger la chair des tisserins ou de leur faire du mal.
Ah, c'est pour ça que nous les laissons faire leur nid dans nos villages.
Oui. Nada s'en revint alors à son palais. Elle s'enferma dans sa chambre et elle avala la baie de flamme qui lui brûla la gorge. Elle tomba comme dans un profond sommeil. Son âme fut extirpée de son corps et son esprit partit en balade.
Quel est cet endroit ?
Il lui sembla se trouver dans un monde assombri, où régnait la brume et un air froid. Bientôt, deux hommes s'approchèrent. Deux frères.
J'ai donné ce que je pouvais.
Ah, tu appelles ça un don ? Un don ? Espèce de misérable bon à rien ! Tu parles d'un frère !
Ils se disputaient au sujet d'un récent sacrifice, car l'un des deux avait offert de la viande et l'autre avait choisi un fruit. Ils commencèrent à se battre.
Cain, pitié, pitié !
Tu ne mérites pas de vivre !
Repousse ce caillou !
Devant elle, l'un des deux frères tua l'autre et continua son chemin.
Misérable asticot rampant !
Elle dit alors au frère qui était mort :
Quel est cet endroit ?
Ah, vous êtes dans le monde du rêve, madame.
Comment peut-il parler ? Il est mort.
Silence. Écoute.
C'est le domaine du sommeil et des songes. Dirigé par Kaïkoul, le seigneur des rêves. Cette maison est la sienne.
Il la pointa du doigt et elle vit le château du seigneur des rêves. Enroulé autour de ses portes se trouvaient les créatures le protégeant. Elle s'approcha de la maison et y pénétra. Les gardiens la laissèrent passer, car ils sentaient la baie de flamme dans son ventre. Elle entra dans la salle du trône et aperçut Kaïkoul, le seigneur des rêves, assis. Et sur sa tête, elle vit un casque immense, fait du crâne d'un bien étrange animal, et sur son torse, une pierre rouge brillante. Il lui demanda :
Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ?
Je cherche un étranger, car je l'aime. Des flammes dansaient sur le noir de sa tenue, et ses yeux étaient des étoiles dans des eaux ténébreuses. Il s'est approché de ma tour un soir, et a levé les yeux vers moi, mais ne m'a rien dit.
À ces mots, Kaïkoul retira son casque. Et elle vit devant elle le même étranger qui s'était tenu sous sa fenêtre dans la cité de verre.
C'était moi.
Et son cœur s'enfonça dans sa poitrine, car elle avait avoué son amour à l'un des infinis qui ne sont pas des dieux et qui, à la différence des dieux, ne mourront jamais.
Les infinis.
Dans les étoiles de ses yeux, elle vit qu'il l'aimait en retour. La terreur s'empara d'elle. Elle toussa et toussa encore, jusqu'à recracher la baie de l'arbre qui pousse dans les montagnes du soleil. Elle la toussa sur le sol de la salle du trône du seigneur des rêves. Et elle se réveilla dans sa propre chambre. Debout, à ses côtés, se trouvait le seigneur des rêves.
Pourquoi m'as-tu cherché ?
Lui demanda-t-il.
Pourquoi me fuis-tu ?
Je t'ai cherché car je t'aime. Je t'aime plus qu'un mortel n'a jamais été aimé par une femme.
En prononçant ces mots, elle quitta sa chambre dans la tour et descendit dans la cour. Et le seigneur des rêves la suivit.
Et si je t'ai fui ? C'est parce que les mortels n'ont pas le droit d'aimer les infinis. Les conséquences seraient catastrophiques. Catastrophiques pour toi, pour moi et pour tout mon peuple.
Mais Kaïkoul secoua la tête.
Personne ne m'a jamais assez aimé pour me chercher. Je n'ai jamais croisé de femme qui pourrait être mienne. Je suis prêt à t'épouser, Nada, et à faire de toi la reine de mon royaume. De faire régner sur les songes des dormeurs à mes côtés, m'accompagner à jamais, ne jamais connaître la mort des humains. Et ça, je le jure, sur ce rubis posé sur mon torse.
À ces mots, Nada fut mortellement effrayée, car bien qu'elle l'aimât, elle savait que leur relation était impossible. et qu'elle ne pourrait empêcher sa destruction et la sienne. Car l'amour n'a pas sa place au royaume des rêves. L'amour appartient à Désir, qui est de la fratrie de rêves. Et le désir est toujours cruel. Alors, Nada prit la forme d'une gazelle, et elle courut jusqu'à en perdre haleine. Mais le seigneur des rêves la traqua comme un chasseur, et il tua la gazelle. Là, elle reprit sa forme originelle et courut dans les terres désertiques.
Attends! Attends!
Il continua sa poursuite.
Non! Non!
Elle grimpa sur une montagne, mais il persista.
Attends!
Il veut que je l'épouse. Mais si je perds ma virginité, il ne voudra pas de moi.
Elle prit une pierre aiguisée et de son tranchant, elle perça son hymen. Elle abreuva le sol encore vierge de son sang. Là où le sang coula, des fleurs rouges poussèrent. Elle se tourna et devant elle se tenait Kaïkoul.
Tu sais que je ne suis plus vierge.
Elle s'attendait à ce qu'il l'abandonne.
Je ne suis pas un mortel. Et je t'aime comme aucun homme mortel ne pourrait t'aimer. Ton corps m'importe peu.
Il lui toucha alors le sexe de la main. Et à son contact, sa blessure guérit et la douleur disparut. La plaie s'était refermée. Mais elle ne retrouva pas sa virginité. Il lui prit la main. Et la tira dans l'obscurité de son vêtement. Et là, dans les flammes et les ténèbres, ils firent l'amour. Toute la nuit, ils restèrent ensemble. Et toutes les créatures vivantes qui rêvèrent, rêvèrent du visage de Nada, de son corps, de la chaleur et du sel, de sa salive et de sa peau. Et toutes les créatures vivantes qui rêvèrent, rêvèrent d'amour. Lorsque le soleil se leva le lendemain, il les vit tous les deux ensemble et comprit que quelque chose d'interdit s'était produit.
Non !
Une boule enflammée tomba du ciel.
Non !
Elle brûla la cité de verre, la réduisit en cendres, ne laissant qu'un désert. Un désert parsemé d'éclats de verre, comme celui-ci.
Oh.
Du sommet de la montagne, Nada vit le soleil lancer la boule de feu. Elle vit sa cité fondre, vit ses terres se transformer en désert asséché.
C'est à cause de ce que nous avons fait,
annonça-t-elle au seigneur des rêves.
Et le pire reste à venir si je reste à tes côtés.
Elle prit la main de son amant comme le font les amoureux. Elle se pressa contre lui. Puis elle relâcha sa main. Et avant qu'il ait compris, Nada se jeta du sommet de la montagne. Son corps alla s'écraser sur les rochers en contrebas. Cette partie est aussi dans le conte. Et c'est ainsi que le frère de ma mère me l'a dit à l'époque, et son père le lui a dit avant. Et ainsi de suite, sur une infinité de générations. Après sa mort, l'esprit de Nada se réveilla dans la forêt, à la frontière du royaume des rêves.
Où ? Qui ?
Elle sentit que quelqu'un se tenait derrière elle. Elle se tourna, et le seigneur des rêves était là. Et à nouveau, le casque était revenu sur sa tête.
Tu m'as blessé. Tu aurais pu être ma reine. Mais tu as préféré le royaume de la mort.
Nada baissa la tête.
Une fois encore, je vais t'offrir mon amour. Une fois encore, et pas une de plus. Car si tu refuses une troisième fois, je condamnerai ton âme à la souffrance éternelle. Alors je te le demande, mon doux amour, pour la dernière fois, veux-tu être ma reine ? Réponds-moi.
Dit Kaikul, le seigneur des rêves, à la reine morte.
Comment puis-je être ta reine ?
Demanda-t-elle.
Mon peuple est mort à cause de mes actions, et ma cité n'est plus que ruine.
Elle tendit la main vers lui, et lui la sienne. Leurs doigts se touchèrent.
Si j'acceptais de rester avec toi, des choses bien pires se produiraient. Les mortels n'épousent pas des infinis, mon amour. Alors, laisse-moi dans le royaume de la mort, seigneur des rêves, et oublie-moi.
Et elle partit sur le chemin sans soleil, dans le royaume de grand-mère la mort. Mais il la rattrapa.
Attends.
Je t'en prie.
Elle le supplia.
Ne me redemande plus d'être ton épouse. Si tu me poses la question, je devrais refuser. Et après ça, tu me condamneras à la souffrance éternelle. Alors laisse-moi, Seigneur.
Mais le Seigneur des rêves a sa fierté.
Et pour la dernière fois, il lui demanda de l'épouser.
Grand-père ? Et après ?
Où est ma lance ?
Là. Allez, dis-moi.
C'est ça l'histoire, ça se termine là. C'est comme ça que mon oncle me l'a conté, que son père lui avait conté, et comme ça que toi aussi tu la conteras à ton tour.
Mais ce n'est pas une vraie histoire. Il lui manque une vraie fin. Qu'a répondu Nada quand Kaikul lui a demandé pour la dernière fois ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle a dit non. Avait-elle le choix ? Tiens, prends cet éclat de verre et cache-le quelque part ici. Peut-être que ton fils ou ton petit-fils le trouvera quand tu l'amèneras ici pour lui dire le conte.
Je peux le lancer ?
Bien sûr. Le feu s'est éteint, le soleil va bientôt se lever. Il est grand temps pour nous de rejoindre la tribu. Tu as perdu ton prépuce, écoutez le conte. Voilà qui fait de toi un homme. Allons-y. Le conte est fini, et j'ai les os glacés.
Il existe une autre version de ce conte. C'est le conte que se disent les femmes entre elles, dans cette langue privée qu'on n'enseigne jamais aux jeunes garçons, et que les hommes plus âgés sont trop sages pour apprendre. Et dans cette version de l'histoire, peut-être les choses se passent-elles différemment. Mais après tout, c'est un conte réservé aux femmes, et qui ne doit jamais être dit aux hommes.